la sincérité. Je pense que de nos jours, on entend beaucoup parler du mot de sincérité. Il faut être sincère dans ce que l'on fait. Il faut être sincère dans nos actes. Et quand quelqu'un a fait quelque chose et que ça ne se passe pas très bien, l'excuse, la première qui est donnée, ou la première réponse qui est donnée souvent, c'est « mais j'étais sincère ». Alors on voit, soit dans les drames les plus horribles de notre planète, la personne est capable de dire « mais moi j'étais sincère dans ce que j'ai fait, j'étais sincère dans l'idéologie que j'ai suivie ». Et on peut le voir dans les idéologies qui ont traversé le XXe siècle, que ce soit le communisme, que ce soit le nazisme, il y a des gens qui ont été capables de dire on a fait des catastrophes, on a fait des horreurs, mais moi j'étais sincère, on m'a trompé. Et je dirais plus couramment, je dirais dans notre vie courante, dans la vie de tous les jours, j'ai fait quelque chose qui peut-être a porté tort à quelqu'un d'à côté de moi, et pourtant je suis capable de dire mais moi j'étais sincère dans mon action, j'étais parti avec des bonnes intentions. Et il suffit aujourd'hui de le proclamer pour être en quelque sorte absous de toutes nos fautes. C'est un peu une position inattaquable. Et au niveau de la foi, au niveau de la religion, on entend beaucoup aussi dans les médias ou dans des revues que ce qui compte, c'est d'être sincère. Ce qui compte, qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste ou toute autre religion, ce qui compte, ce n'est pas tant la vérité, mais c'est la sincérité que l'on a. Alors on va voir que peut-être que le mot sincérité peut avoir et a peut-être perdu un peu du sens premier qu'il avait. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la vraie sincérité et qu'est-ce qu'il faut ajouter à la sincérité pour être dans la vérité de Dieu. Il y a aussi un proverbe ou j'irais une maxime qui dit que le monde est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai que nous-mêmes, en tant que chrétiens, mais aussi les gens qui nous entourent, on est souvent pétris de bonnes intentions, prêts à faire le mieux. Des fois, comme on l'a vu, avec sincérité. Sincérité, c'est-à-dire en étant authentique, en étant vrai. Et on va prendre un personnage de la Bible qui a vécu un peu cette situation, c'est le roi David. Alors on va prendre dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, au chapitre 13. On va d'abord dresser un petit tableau de la situation. Alors David a à peu près 30 ans. Donc on est au chapitre 13 de 1 Chronique. David a à peu près 30 ans. Il est roi de Juda depuis à peu près 7 ans environ. Et il est roi d'Israël. Donc il a unifié le royaume depuis peu. Il y a eu donc une guerre civile entre lui et entre les hommes de David et entre les descendants de Saül. Après la mort de Saül et de Jonathan, il y a eu donc une guerre civile qui a à peu près duré pendant 2 ans. Et David et ses hommes ont triomphé. Et ils ont réussi à réunifier le peuple de Dieu. Et donc il est maintenant le roi, je dirais un peu tout puissant et absolu du peuple d'Israël. Et juste avant ce chapitre, juste avant ce passage, il vient d'accomplir quelque chose de très important. dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire, je dirais même, du monde entier et qui a encore une répercussion aujourd'hui. Il vient de s'emparer de Jérusalem, de conquérir Jérusalem, qui était tenue par les Jébusiens, et il vient d'en faire sa capitale. Donc on voit que David est en pleine réussite, et Dieu même affermit sa royauté. On va prendre juste un petit peu avant, juste un verset pour voir. C'est Chroniques 11, 9, où il est dit « David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. » On voit donc un homme qui peut être plein de confiance, qui a l'aide de Dieu, qui est aussi un homme qui, dans sa vie, dans ses actes en tant que roi, dans ses actes de tous les jours, pense et a la préoccupation de demander à Dieu ce qu'il faut faire. Et on peut le voir dans les chapitres précédents où vraiment David a cette préoccupation d'être à l'écoute de Dieu pour sa vie. Donc on va lire ce chapitre 13 de 1 Chronique. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chissor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath Yerim, l'arche de Dieu, et David, avec tout Israël, monta à Baalal, à Kiriath Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un arche neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achro conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé, jusqu'à ce jour, Péré Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il l'a fait conduire dans la maison d'Odeb et d'Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Odeb et d'Edom et dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Donc on vient de voir que dans ce passage, David décide d'une chose très importante. L'arche qui est dans un lieu en Israël, va être ramené dans la capitale, Jérusalem, pour être vraiment au centre de la vie d'Israël et pour être vraiment au centre de la vie de son peuple. Et David le veut vraiment. On voit que c'est lui qui décide, dans le sens où il fait la proposition de ramener l'arche. Et tout le peuple, on voit que tout le peuple est rassemblé, et tout le peuple donne son accord. Et donc ils ont vraiment cette envie, ils ont vraiment à cœur de ramener l'arche à Jérusalem, et ils sont sincères, ils sont enthousiastes à l'idée de ramener l'arche, qui a été pendant de nombreuses années aux mains des Philistins, et que les Philistins ont renvoyé d'eux-mêmes en Israël parce qu'elle causait trop de malheur dans leur peuple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on sait que l'arche renversait les statues de Baal et qu'elle a causé aussi d'autres malheurs pour les Philistins. Et les Philistins d'eux-mêmes ont décidé de le renvoyer en Israël, de le ramener parmi son peuple en se disant « c'est leur Dieu, on va le renvoyer, il ne nous causera plus de tracas comme cela ». Et donc on voit que le peuple et David ont décidé de faire quelque chose de bien, de ramener l'arche à Jérusalem. Alors pourquoi une action sincère, une action faite avec cœur, aboutit-elle à une si grande catastrophe, la mort d'un homme, la mort de Ouza? On voit que David ne comprend plus, et à la fin du passage, on voit qu'il est à la fois en colère contre Dieu, il a de la crainte devant Dieu, parce qu'il a vu la puissance de Dieu, mais il est en colère, et finalement il décide une chose, c'est que il ne va pas ramener l'arche chez lui, il ne va pas ramener l'arche à Jérusalem, il va la mettre à Obed-Edom, dans la maison d'Obed-Edom. Pour s'en débarrasser de quelque sorte. Alors est-ce que dans le service de Dieu, est-ce que pour nous maintenant, aujourd'hui, est-ce que les bonnes intentions, est-ce que la sincérité, même si c'est essentiel, hein, on ne peut pas servir Dieu sans bonnes intentions et sans sincérité, dans le vrai sens du terme. Est-ce que ça suffit toujours pour servir Dieu? Et on voit que la sincérité de David, la sincérité même du peuple d'Israël, ne suffit pas à être garant d'une efficacité, à être garant d'un bon résultat, d'une bonne réalisation. Dans une note de mes Bibles, j'avais un petit introduction où il mettait une bonne intention et une mauvaise réalisation. Et je crois vraiment que c'est exactement ça, ce passage. Il y a les bonnes intentions, elles sont là, et il faut qu'elles soient pour nous aussi dans notre service au sein de notre Église, dans notre famille, dans notre témoignage. Nous devons avoir ces bonnes intentions. Mais nous devons avoir quelque chose de plus que là, David et le peuple n'ont pas eu. Alors on peut voir, on va faire juste une petite parenthèse sur quelque chose qui est intéressant. C'est au verset 8. Il est dit que David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Et ce passage, on pourrait se dire, ils sont pleins de louanges, pleins de ferveur. Ce passage illustre à merveille une louange sincère à l'Éternel, étroitement liée et associée à une désobéissance. Alors on peut des fois être un peu surpris. On peut avoir comme David et comme le peuple d'Israël une très grande louange, peut-être au sens humain, je dirais, être très fervent, mais ne pas être dans la voie de Dieu. Et j'ai lu un livre dernièrement de Maurice Decker qui s'appelle « De l'amertume à la grâce ». Et il a un chapitre qui est consacré exactement à ce chapitre 13, un des chapitres de son livre, qui est basé sur l'histoire de Ruth et de Noémie, mais qui voit aussi d'autres chapitres dans la parole de Dieu. Et il dit ceci à propos de ce passage, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous lire ce qu'il écrit. « La louange ne doit jamais être considérée comme une sorte de gris-gris, porte-bonheur au pouvoir mystérieux, protégeant automatiquement le croyant qui s'y livre de tout risque de chute et d'éloignement du Seigneur. Elle ne peut être aussi une monnaie d'échange en vue d'obtenir par elle la bénédiction de Dieu. » Je trouvais ce passage et ces paroles que Maurice Decker nous adresse très fortes. C'est vraiment un rappel essentiel. Et on voit que David et le peuple d'Israël, même s'ils étaient pleins de faveur, même si leur louange était vraiment extraordinaire, même s'ils avaient de l'envie pour leur Seigneur, ce n'est pas pour ça qu'ils étaient dans la voie de Dieu, et ce n'est pas pour ça qu'ils ont été bénis. Et je pense que la louange, et la parole de Dieu nous le dit, doit être l'expression de notre reconnaissance et de notre amour pour Dieu. Mais il ne faut pas en attendre la bénédiction ou l'approbation. Elle est le résultat de ce que nous sommes, elle est le résultat de ce que nous avons dans notre cœur. Elle n'est pas, comme le dit Maurice Decker, un gris-gris ou un porte-bonheur au pouvoir mystérieux. Et en effet, David et le peuple ont oublié quelque chose de central dans ce passage. Ils ont oublié la chose la plus importante et la chose qui pourtant caractérisait David dans sa vie jusqu'alors, c'est le fait de consulter Dieu et sa parole. Et si David avait consulté Dieu et consulté la parole de Dieu, il aurait sûrement ouvert le livre des Nombres au chapitre 4. On ne va pas lire le chapitre 4 des Nombres. Mais il aurait vu que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il leur dit comment l'arche devait être transportée et dans quelle situation il devait être transporté. Alors dans ce chapitre 13, je ne l'ai pas pointé, mais je pense qu'il faut le pointer, comment les Israélites et David ont-ils transporté l'arche? Ils l'ont mis sur un char. Un char neuf, tiré par des bœufs. Et ça, c'était exactement la forme que les Philistins avaient pris pour mettre l'arche de Dieu. Les Philistins, pour envoyer l'arche en Israël, avaient pris un char, avaient mis l'arche dessus, et avait envoyé l'arche en Israël. Et là, David reproduit à peu près 20 ans après la même chose. Il met l'arche de Dieu sur un char neuf et il veut l'emmener à Jérusalem. Et là, on voit que David n'a pas consulté Dieu. David n'a pas cherché à savoir comment Dieu voulait que l'on s'occupe de son arche et comment Dieu voulait que l'on s'approche de l'arche. Et dans le chapitre 4 des Nombres, Dieu est très précis et il dit, il n'y a que les Lévites et les sacrificateurs qui peuvent porter l'arche. Il n'y a que eux qui sont autorisés à le porter et à l'emmener. Et encore, pas n'importe comment, pas sur un arche, pas sur un char, mais avec des bâtons qui sont rentrés de chaque côté et portés par les sacrificateurs et les lévites. Alors, voilà, on est dans cette situation-là. L'arche est dans la maison d'Obed-Edom. David est rentré à Jérusalem et il se passe 3 mois. Et pendant ces 3 mois, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Et donc David a 3 mois pour réfléchir, je dirais, mais surtout, ce qui est, moi je trouve toujours formidable dans la vie de David, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, il a cette capacité à se remettre en cause, et il a cette capacité à comprendre ses erreurs et à demander pardon. Alors est-ce que moi, dans mes activités, dans mon service à l'Église, dans mon service en tant que chrétien, dans mon témoignage à mon travail, dans ma vie de famille, est-ce que j'ai comme David cette capacité à demander pardon, cette capacité à me regarder et à comprendre mes erreurs? Et David va faire plusieurs choses qui sont essentielles avant de vouloir reprendre le service, avant de vouloir retourner dans l'action. Alors on saute un chapitre et on va au chapitre 15. On va commencer par lire du verset 1 à 4. Donc 15, verset 1 à 4. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place, à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Et déjà, une première chose dans le service pour Dieu, il prépara une place à l'arche de Dieu. Est-ce que nous, quand nous travaillons pour Dieu, est-ce que moi, quand je travaille pour Dieu, quand je fais telle ou telle chose, que ce soit dans l'évangélisation, dans les camps, que ce soit ici à l'église, dans le service pour les enfants, n'importe quel service, est-ce que moi aussi, je prépare une place? Est-ce que je prends du temps pour me préparer? Et on voit que, contrairement au chapitre 13, là, David prépare une place pour l'arche. Il y a un endroit pour cette arche qui va venir à Jérusalem, qui est déjà désigné. On va le mettre dans une tente. On sait où il va aller. Et c'est préparé. Et moi aussi, dans mon service, je dois me préparer. On continue à lire. Verset 2. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de Dieu à la place qu'il lui avait préparée. Et là, on voit que David, toujours avec sincérité, toujours avec des bonnes intentions pour Dieu, mais là, il y a une chose en plus, c'est qu'il a consulté Dieu, il sait ce que la parole de Dieu dit et ce qu'il doit faire. Et donc, il appelle les Lévites et les sacrificateurs pour porter l'arche. Et on va sauter quelques versets où c'est simplement l'énumération des Lévites et des sacrificateurs. Et là, il y a David qui parle devant eux. Et il leur dit au verset 12, il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. » Moi, je trouve que c'est formidable. Avec David, c'est que il fait des erreurs, il fait des fautes, tout au long de sa vie, il en fera d'autres, mais il a cette extraordinaire capacité à regarder à Dieu et d'être repris par Dieu. Et là, c'est clair, il a tout compris de ce qui avait cloché la première fois. Les Lévites n'étaient pas là. Ils n'avaient pas consulté la loi de Dieu. Et c'est pour ça que cette catastrophe est arrivée. Alors est-ce que moi, dans ma vie, quand il m'arrive quelque chose de pas bien, quand il m'arrive quelque chose, un échec, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas consulté la loi de Dieu et la parole de Dieu. Alors attention, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des fois où une épreuve ou une difficulté arrive sans qu'on ait forcément de tort. Quand quelque chose ne va pas dans ma vie, ce n'est pas automatiquement que ma vie spirituelle est dégradée à certains points. C'est peut-être aussi notre humanité, c'est peut-être aussi notre nature pécheresse, dans un sens où on n'est pas parfait. Il y a des accros dans notre vie qui ne sont pas toujours forcément liés à une erreur. Mais je pense que dans notre service et dans notre travail pour le Seigneur, il peut des fois y avoir des accros, il peut des fois y avoir des erreurs, parce que malgré notre sincérité, malgré notre enthousiasme, eh bien, nous n'avons pas regardé à Dieu, et surtout, nous n'avons pas cherché selon sa loi ce qu'il était bon de faire. Donc David, au bout de 3 mois, a pris la décision de faire monter l'arche de Dieu à Jérusalem. Et cette fois-ci, il a consulté Dieu, il a consulté sa parole, il est prêt, il a préparé une place pour l'arche. Il a été capable de reconnaître ses erreurs. Et je pense que pour nous aussi, c'est vraiment dans le service de Dieu quelque chose que nous devons avoir à cœur, de consulter Dieu et sa parole par la prière, par les frères et sœurs qui nous entourent. Nous sommes dans une église. Si Dieu nous a placés au sein d'une communauté, c'est aussi pour être guidés par celle-ci. Alors avec chacun sa spécificité, chacun notre autonomie. Mais si Dieu a créé l'église, c'est pour qu'elle nous guide aussi. Elle est un des biais par lequel nous consultons Dieu. Et il y a bien sûr le biais essentiel, c'est l'Esprit Saint que Dieu a mis dans notre cœur. C'est lui qui doit nous diriger, et c'est lui qui nous permet de comprendre les voies de Dieu. Donc à travers ce récit, on voit la formidable capacité de David à plier le genou devant Dieu, à reconnaître ses erreurs. Il y a d'autres passages dans la vie de David qui sont encore plus marquants de ce côté-là, mais c'est vraiment une des caractéristiques de cet homme que d'être capable de se regarder et d'aller vers Dieu. On va sauter encore quelques versets et on va aller vers la fin du chapitre. Donc toujours au chapitre 15, à partir du verset 25, où il nous est donné le récit de la deuxième montée de l'arche vers Jérusalem. Donc on va lire à partir du verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Ce fut avec l'assistance de Dieu. Et dans notre service, dans ma vie de chrétien, c'est aussi avec l'assistance de Dieu, c'est aussi grâce à l'assistance de Dieu que je pourrai avancer. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssu. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un épode de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, en faisant retentir les luttes et les harpes. Et là, on voit l'illustration de ce que nous disait tout à l'heure Maurice Decker dans le court passage que j'ai lu de son livre. L'adoration, la louange est vraiment, doit être le résultat. Et là, elle est le résultat de la joie du peuple, elle est le résultat de la joie de David d'accomplir le service de Dieu, mais de l'accomplir avec les forces de Dieu, guidé par sa main, et de l'accomplir selon sa loi. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on ne mesure pas toujours la grandeur et combien les actions de louange d'Israël sont vraiment extraordinaires. Parce qu'elles sont vraiment toutes pleines de joie pour leur Dieu. Il y a des cris de joie au son des clairons, des trompettes. Alors nous, dans notre culture occidentale, on est des fois peut-être un peu tristouné dans la louange. On est un peu retenu. C'est un peu notre culture. Peut-être qu'il y a des régions où c'est encore plus. Et je pense que quand on va soit en Amérique du Sud, soit en Afrique, soit dans le Pacifique, on voit que les chrétiens ont une plus grande liberté à lâcher leur joie, dans un sens, à se libérer. Ils ont moins de contraintes sociales que nous pour louer leur Dieu. Et on va lire le dernier verset. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Alors, je ne veux pas parler de l'attitude de Michal et du mépris qu'elle a pour David, c'est un autre sujet. Moi, ce que je veux retenir, c'est que l'arche rentrait dans Jérusalem, et quelle est l'attitude de David ? Il saute et il danse. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut que vous sautiez, que vous dansiez là maintenant à l'instant T, hein, ou quand on a un moment de louange qu'il faut danser ou sauter, mais c'est dans le contexte culturel de l'époque, c'est dans le contexte de ce temps, mais on voit vraiment que David a cette joie dans le service de Dieu, a cette envie de faire pour Dieu, a cette envie vraiment de louer Dieu de tout son cœur et de le servir de tout son cœur. Et à cet instant, lors de l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, David et tout le peuple d'Israël peuvent ainsi allier un service conforme à la parole de Dieu et une louange pleine de ferveur et d'enthousiasme, avec un seul but, et le seul but de notre service, c'est de glorifier notre Dieu. Alors, est-ce que notre service est bien sûr fait avec sincérité, et bien sûr fait avec enthousiasme, mais aussi fait avec la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes comme David capables de servir le Seigneur avec ferveur et enthousiasme, avec sincérité dans le vrai sens du terme, de reconnaître nos erreurs et enfin surtout de repartir encore plus fort au service de notre Dieu? Il a fallu que 3 mois pour David à comprendre, il n'a pas fallu 10 ans. Il n'a pas mis 20 ans à se remettre de quelque chose qui est quand même... qui peut secouer, il y a eu un mort. Hein. C'est innocent. Il lui a fallu 3 mois pour repartir au service de Dieu. Je trouve que c'est un exemple extraordinaire, avec un seul but, la gloire de Dieu et glorifier Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, te rendre grâce pour cette histoire qui nous donne un exemple extraordinaire de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour ton service. Et nous voulons regarder David, cet homme de Dieu, qui est à la fois sincère, enthousiaste dans son service pour toi, qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui est capable aussi de regarder à ta personne pour savoir ce qu'il faut faire. Alors Seigneur, donne-nous à nous aussi par ton esprit d'être des chrétiens sincères, enthousiastes, qui ont envie de travailler pour toi au sein de ton Église, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, que nous puissions vraiment, nous aussi, être pleins de ferveur, mais que nous puissions, nous aussi, regarder à ta parole, regarder au seul livre qui dit la vérité, à celui qui doit guider nos pas, à ta personne, que ton esprit puisse diriger nos vies, que nous puissions vraiment nous remettre entre tes mains. Tu veux le meilleur pour nous, tu veux nous bénir, et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu poses ta main sur nous, que tu nous guides chaque instant de notre vie, et que nous puissions accomplir pour toi les œuvres que tu as disposées dans notre vie devant nous, que nous ne les dégagions pas de la main ou d'un revers de la main, mais que nous prenions vraiment à pleine main le travail que tu as pour chacun d'entre nous. Il n'y en a aucun qui est de côté. Tous nous avons à travailler pour toi. Tous nous avons à aller de l'avant pour toi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander que tu nous diriges en cela par ton esprit. Amen.